qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel. Je suis essentiel. Je suis essentiel. Je suis essentiel.
Vous êtes bien à l'écoute des programmes de Radio Campus sur le 106,6 et comme tous les premiers lundis du mois, eh bien, on entame la semaine par tous essentiels avec Virginie. Bonjour Virginie, ça va bien?
Salut Max!
Oula, mais c'est un petit peu cassé, effectivement, tout ça. Tu ne fais pas semblant.
Oui, alors officiellement, ça sera parce que j'ai vraiment fait la teuf. Bon. C'est peut-être aussi parce qu'il y a quelques crobes.
Juste légèrement. Et dis-moi, tu as un invité exprès pour nous aujourd'hui?
Oh oui, quelqu'un que j'aime beaucoup. Je vous présente Baptiste Milondo. Bonjour Baptiste.
Bonjour.
Alors Baptiste, en fait, je te connais depuis la naissance du MFRB en 2013, donc le Mouvement Français pour le Revenu de Base. Et j'étais pas mal suivi. Et comme récemment, en plus, tu as ressorti un nouveau livre que je vais citer tout de suite. Hein, c'est « Ce que nos salaires disent de nous » en septembre 2023. Ça a été la super occasion de te recontacter pour que, enfin, tu puisses faire partie de notre série « Les versions du revenu de base ». Parce qu'en fait, on n'en est même plus à savoir est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, puisqu'on en est, je crois, à une quinzaine de versions aujourd'hui. Et donc pour te présenter très rapidement, t'es prof en économie, en philosophie politique, avec une petite pincée d'anthropologie. Et ce que j'aime beaucoup, donc dans la version que tu portes, que tu appelles le revenu de citoyenneté, pardon, où tu croises la décroissance et un questionnement très intéressant sur la valeur travail. Et tu nous présenteras peut-être au passage pour un revenu social, le PURS, qui a démarré en mars 2011. Donc voilà, d'abord, avant tout, je vais te torturer avec notre petite question rituelle. Imagine, à partir de demain, tous les jours, tu reçois, tous les mois, tu reçois sur ton compte, sans avoir rien à faire, une somme suffisamment pour vivre, et tu sais d'avance que c'est jusqu'à ta mort. Et c'est complètement indépendant de ton activité, de tout ce que tu fais dans ta vie personnelle, professionnelle, etc. Qu'est-ce que ça changerait pour toi?
Alors, ce que ça changerait pour moi, alors paradoxalement, je pense que ça changerait pas grand-chose à mon quotidien, à titre personnel, parce que j'ai la chance d'avoir un boulot que j'aime beaucoup, donc je suis enseignant, et en plus j'ai la chance de le faire à temps partiel, ce qui fait que je consacre assez peu de temps à une activité que j'aime beaucoup pour pouvoir consacrer encore plus de temps à d'autres activités que j'aime beaucoup. Et puis en termes de niveau de vie, ça changerait pas grand chose non plus. En fait, je pense que ce qui changerait le plus, ce serait le cadre dans lequel je réaliserais mes activités d'enseignement. Je pense que je pourrais plus facilement les proposer à titre bénévole en MJC, par exemple, ce que je fais moins maintenant. Donc c'est essentiellement ça que ça changerait. Je pense que sinon j'aurais à peu près les mêmes activités. Je pourrais aussi peut-être plus facilement refuser d'intervenir dans certains établissements qui me plaisent un peu moins que d'autres, puisque j'interviens dans plusieurs établissements. Donc ça me permettrait de choisir avec plus de sérénité.
Oui, donc ce que j'entends aussi derrière ce que tu dis, tu me dis si je me trompe, hein, mais tu vis déjà quelque chose qui a du sens pour toi, qui respecte ton rythme et une forme d'engagement, de valeur. Et avec un revenu de base, finalement, ça t'aiderait encore plus à être en cohérence avec tes valeurs pour notamment pouvoir offrir en fait ce que tu as sans avoir besoin de le monnayer et donc à le rendre plus accessible à tout le monde, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors, ça me permettrait mieux choisir les canaux et effectivement d'élargir sans doute un peu le public. Ça changerait aussi la relation pédagogique. Enfin, ça aurait ce type d'impact. Mais sur mon quotidien, ça changerait pas grand-chose.
Parce que tu as déjà de la sécurité, une forme de liberté et du sens. Super. Bon, alors, est-ce que tu vas pouvoir nous en dire plus sur le revenu de citoyenneté que tu portes déjà depuis au moins une dizaine d'années? Alors d'abord, si tu veux bien, par l'attaque des attentes, les attentes sociétales, Pour toi, ça représente quoi? Alors, il y a en même temps le côté, la base de ce qu'on appelle un revenu de base, avec la définition que tu reprends toi aussi d'un revenu inconditionnel, individuel, toute la vie, etc. Et cette particularité que tu rajoutes en la spécifiant de citoyenneté. Qu'est-ce que tu en attendrais si on pouvait... Qu'est-ce que tu en attends si on pourra... Quand on pourra, allez, soyons ambitieux. Qu'est-ce qui va arriver quand on le mettra en place? Voilà.
Alors, moi, je pense le revenu inconditionnel dans une perspective décroissante. Donc, la question qui se pose surtout, c'est si on imagine une sortie de la croissance et de son monde, quel modèle social on peut envisager? Et donc, quelle lutte contre la pauvreté, quelle lutte contre le chômage, enfin, à quoi ça peut ressembler, une lutte contre le chômage dans une société décroissante, avec... en plus, une critique de la valeur travail comme survalorisation de l'emploi.
Baptiste, oui. Je vais t'interrompre un petit peu. Est-ce que tu peux faire un tout petit point sur qu'est-ce que tu appelles une société de la décroissance pour qu'on puisse se l'imaginer avant de pouvoir te suivre?
Ah oui, alors ouais, parce que du coup, pour me présenter complètement, donc, je dois ajouter que donc, j'ai plein de biais idéologiques et donc je suis parmi ces biais idéologiques objecteur de croissance et décroissant. Objecteur de croissance, ça veut dire que je pars du principe que la croissance économique n'a aucune raison d'être un objectif politique dans une société comme la nôtre. Aussi riche que la nôtre, le terme est mal choisi, aussi opulente que la nôtre. Et décroissant, ça veut dire que je pars du principe que nous sommes une société de consommation, qu'une société de consommation, c'est une société de surconsommation, donc de surproduction, et donc une société dans laquelle on travaille trop, et donc il faudrait tout faire en moins et en mieux. Donc c'est ça une société une société de décroissance ou post-croissance. L'idée c'est qu'il faut remettre en cause la croissance économique et tout le monde de la croissance économique, en gardant à l'esprit que la croissance c'est pas que l'augmentation du PIB, c'est aussi tout un ensemble de valeurs, tout un ensemble d'impératifs qui pèsent sur les individus à la fois comme producteurs et comme consommateurs. De ça que je souhaiterais sortir. Je ne sais pas si c'est plus clair.
Du coup, si je comprends bien, c'est juste pour clarifier de façon très concrète, on serait dans un monde où on reverrait les priorités de production et de consommation selon les besoins, selon les ressources, etc. Quelque chose qui serait plus géré.
Ouais, selon les besoins, selon les ressources. Et puis, en gardant à l'esprit aussi que... Moi, je suis venu à la décroissance essentiellement du fait, alors je vais dire, le terme est peut-être un peu fort, mais du fait d'une détestation du travail. C'est-à-dire que j'ai très vite été en porte-à-faux avec notre société qui nous dit que c'est essentiellement par l'emploi qu'on va se réaliser, qu'on va s'épanouir, etc. C'est quelque chose qui m'a toujours semblé un peu curieux après quelques expériences dans le monde du travail. Et donc du coup, je me dis aussi, il s'agit de questionner nos besoins en fonction aussi de notre aspiration pour le temps libéré. C'est pas qu'une question de ressources. Enfin, j'ai pas que l'entrée écolo pour la décroissance. J'ai aussi l'entrée sociale. Je me dis, on a quand même mieux à faire de nos vies que de bosser 5 jours sur 7, 35 heures par semaine pendant 42, 43 ans.
En tout cas, comme tu le dis, en séparant ce qu'on appelle travail et emploi, quoi.
Oui, c'est ça.
Et donc du coup dans ce contexte-là, donc on imagine on sort de la croissance, tu cherches à travers le revenu de citoyenneté un levier, mais pourquoi ?
Alors l'idée c'est donc permettre de sortir de la valeur travail et de son implication sur le chômage. En fait, le chômage pose un problème aujourd'hui dans notre société essentiellement du fait de la survalorisation de l'emploi. Le chômage devient un manque d'emploi dans le sens additif du terme. Et donc, pour pouvoir sortir de ça, il faut donner la possibilité aux gens de s'épanouir hors de l'emploi en toute légitimité et sans subir une perte de revenus telle que, en fait, on serait obligé de retourner immédiatement dans l'emploi. Donc, c'est dans cette optique, moi, que je pense le revenu inconditionnel. Ça permettrait de libérer les individus de la contrainte d'emploi pour pouvoir donner plus de place au temps libéré. C'est ça l'enjeu. Et puis accessoirement, mais c'est tout de même important, ça permettrait de réduire aussi les inégalités. aussi une de mes préoccupations.
Et du coup, donc se libérer de l'emploi, d'accord. Mais là, j'entends évidemment des voix que tu as dû recevoir aussi. Une, alors cette fameuse méritocratie, ne rien faire, ne pas travailler. Oui, mais qu'est-ce qu'on apporte du coup? Et très concrètement, en termes de participation, en termes de production, voilà, ça serait la Bérésina.
Oui, alors... Ça, donc c'est le type de question qui découle complètement de la valeur travail, encore une fois entendu comme survalorisation de l'emploi, donc qui va nous conduire à avoir une vision du temps libre avec deux travers. Soit on va considérer que c'est du vide, soit on va considérer que c'est du vice. La valeur travail conduit donc encore une fois à survaloriser l'emploi, à dire que c'est par l'emploi que passe l'utilité sociale des individus, la reconnaissance sociale, l'estime de soi, le lien social. Et que par conséquent, quand on n'a pas d'emploi, eh ben en fait, on ne fait rien ou on fait mal. C'est ça le principe, effectivement. Donc, la perspective de sortir de ces valeurs de travail, ça laisse voir le spectre d'une société du farniente ou du vice. Alors, moi, j'ai plusieurs réponses par rapport à ça. Enfin, déjà, moi, je base. Je fonde mon revenu, enfin, ma défense du revenu inconditionnel sur la reconnaissance de la contribution de toutes et tous à l'enrichissement collectif. Il y a plusieurs fondements possibles aux différentes propositions de revenu inconditionnel. Il y a la question de la liberté, il y a la question de la propriété, etc. Moi, je m'appuie sur donc cette reconnaissance de la contribution à l'enrichissement collectif. Donc, je pars du principe que, quelles que soient nos activités, nous contribuons tous à la production du gâteau économique dans la société, et qu'à ce titre, nous avons tous et toutes droit à une part de ce gâteau, une part suffisante pour continuer à le produire dans de bonnes conditions. Donc j'aurais tendance du coup à inverser la logique. C'est pas parce qu'on met en place un revenu inconditionnel qu'on ne va plus contribuer à l'enrichissement, qu'on ne va pas contribuer à l'enrichissement collectif. C'est plutôt parce que nous contribuons à l'enrichissement collectif que nous avons droit toutes et tous à un revenu inconditionnel.
J'aime beaucoup la formule ni vice ni vide, ou ni vide ni vice. Et effectivement, on sent à travers ce que tu dis, il y a plein de peurs, il y a plein de préjugés hein, qu'on a déjà abordé dans cette émission. Et le fait de renverser finalement le fait de l'entrée, comme tu disais, de partir du constat que a priori, on participe. Ça me fait voir aussi qu'effectivement, quand un bébé arrive, il apporte déjà beaucoup de bonheur, il apporte déjà beaucoup de choses, bon, de fatigue aussi, on ne va pas se le cacher, mais voilà, même quelqu'un qui ne fait absolument rien, même un enfant, qui sont souvent plutôt dévalorisés ou plutôt considérés comme des investissements au mieux.
Ça dépend quel âge il a et dans quel pays il grandit. Hein, tu sais.
C'est vrai qu'il y en a qui réussissent à être rentables très vite, mais bon, c'est malheureux. Et, mais voilà, j'aime beaucoup cette approche très, très humaniste aussi que tu as. Et qui permet de voir notre utilité, j'utilise le terme exprès pour, voilà, mais pour se la réapproprier, parce que je découvre aussi, alors c'est un peu mes élèves et mon fils qui m'apportent ça, le fait que les enfants aussi adorent être utiles, en fait, trouver leur place dans la société, et que c'est un élément, enfin voilà, un élan complètement naturel des tout petits. Si quelqu'un a déjà vu ces petites vidéos de gamins qui sont dans des piscines à balles de toutes les couleurs, c'est quand même extraordinaire, et qui vont en sortir pour venir à la rescousse d'un adulte qui fait semblant de ne pas réussir à rattraper un truc. Enfin, donc on voit bien que cet élan à participer, cet élan même à être en lien, etc., c'est d'une richesse incroyable. T'hésitais sur le mot richesse, opulence tout à l'heure, et là aussi il y a un mélange un peu comme travail-emploi qui nous piège dans nos réflexions. Donc merci de renverser tout ça. Max, une petite... Pardon, vas-y.
Ouais, j'ajoute un point du coup, vu que tu reparles d'utilité. Alors, en fait, si on prend en sérieux la question de l'utilité sociale, on s'aperçoit assez vite qu'il y a une décorrélation entre utilité sociale et niveau de rémunération aujourd'hui dans les sociétés. C'est-à-dire qu'à aucun moment on peut dire que nos salaires dépendent le montant que l'on perçoit chaque mois du fait de notre emploi aujourd'hui dépend de notre contribution à l'utilité sociale. On s'aperçoit que les boulots les mieux payés ne sont pas forcément les plus utiles dans la société. Les boulots les moins bien payés font partie des boulots les plus utiles. On a pu le voir avec le confinement pendant la crise sanitaire. On a pu voir que le président de la République l'a même souligné. Le pays tournait essentiellement du fait de l'activité de gens qui étaient particulièrement mal payés. Donc l'utilité sociale aujourd'hui ne permet pas de justifier les inégalités de rémunération actuelles. Et même, on aurait tendance à inverser la grille de rémunération si on mettait en place une rémunération à l'utilité sociale. Et surtout, ce que ça montre aussi, c'est que puisqu'il n'y a pas de corrélation entre niveau de rémunération et utilité sociale, on se rend compte qu'il y a une bonne partie des activités qui sont réalisées hors de l'emploi qui sont juste indispensables au bon fonctionnement de la société. Et donc c'est ça que le revenu inconditionnel viendrait reconnaître, en fait. C'est cette déconnexion entre salaire et utilité sociale, donc pouvoir le corriger en mettant en place ce revenu inconditionnel.
Qu'on peut, j'imagine, explorer avec toi dans ton dernier livre, ce que nos salaires disent de nous.
Oui.
Et ça fait le lien aussi avec ce calcul qui a été rendu public il y a déjà quelques années du temps de travail, mais travail au sens très très large, qu'il y aurait deux tiers des heures travaillées qui ne seraient pas rémunérées sous forme d'emploi, ce qui est souvent présenté comme la seule, non seulement la seule façon de contribuer, et en plus la seule façon du coup de mériter de vivre. Une petite
page. Alors, j'ai pas cette étude en tête. C'est quoi cette étude?
Écoute, je ne sais plus.
Le temps de la musique, on la retrouve, et puis voilà.
Hein.
Je vous propose donc une petite chanson, c'est, tu te souviens de Renaud Bistan qui fait les chômeurs de mon quartier? Eh bien, avant ça, il avait un groupe qui s'appelait Bistan Clac, et il a fait justement une chanson décroissante qui s'appelle Consomme. C'est parti.
Du centre-ville au quartier, des campagnes aux bourgades, l'idée du bien habillé fait son travail en brigade. On ne porte que de la marque qu'on arbore fièrement. On croit même qu'on se démarque alors qu'on vit conformément au modèle d'une vie sans autre chose que du futile qui engraisse les puissants. Ceux qui imposent leur style, qu'est-ce que l'on peut bien prouver? En Lévis et en Lacoste, moi j'arpente le pavé. Avec un pull la poste, ça donne de quoi discuter. Plutôt que de parler du ciel, une voix, une facilité. Face au vide existentiel, bonjour moi c'est Calvin Klein. Enchanté moi c'est champion et à part ça tout va bien. On est tous les mêmes pions, certains pions n'ont pas l'argent. Pour faire comme les vrais bourgeois, accéder au bonheur marchand. On tue autant de joie, se sert directement. Et les vitrines explosent, c'est plus drôle assurément. Mais c'est quand même le respect de la clause qui dirige la population. Dans des ambitions faussées, la plonge dans l'obsession. De ne jamais être dépassé. Sacro-sainte nouveauté que la religion des marchands doit sans cesse réinventer pour que l'on ne devienne pas méchant. Il n'y a que la mode comme facteur d'identité, que tous nos gestes, tous nos codes, à ce que l'on possède soient limités. C'est une pieuse mission, acheter doit devenir un réflexe, ou alors c'est l'exclusion. Tu seras mis à l'index. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Il faut de la com et du consomme. Pour que tu consommes, c'est un homme, si t'es un homme, si t'es un homme, consomme. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Il faut de la com et du consomme. Pour que tu consommes, c'est un homme, si t'es un homme, si t'es un homme, consomme. Ce ne sont plus les nouveaux vêtements, mais la nouvelle voiture. Il te faut te renouveler, renouveler ta pâture, car ta personnalité se trouve dans l'armature de ton signe de pouvoir. Aux quatre gens te promets de ton bel objet de foire. que jalouseront les paumés. À force de consommer frénétiquement, on finit par transformer jusqu'à l'amour les sentiments. Quand me parle, tu m'ennuies, je te zappe avec mon portable. Mes amis sont des produits, les bandes de mes humeurs instables. On consomme du relationnel, ce bonheur est biaisé, même les plaisirs charnels doivent être rentabilisés. Il est là l'homme nouveau, l'homme unidimensionnel, qui se sert de son cerveau comme du dernier logiciel. Pour seule ambition de posséder du bien matériel, ce facteur d'intégration, mode de vie officiel, l'homme du troisième millénaire, sera le consommateur, puisque envieux, actionnaire. Un con, un saut, un mateur. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Il faut de la com et du gros son. Ou pour que tu consommes, si t'es un homme, si t'es un homme, si t'es un homme, consomme. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Il faut de la com et du gros son. Pour que tu consommes, si t'es un homme, si t'es un homme, si t'es un homme, consomme. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Il faut de la com et du gros son. Pour que tu consommes, si t'es un homme, si t'es un homme, si t'es un homme, consomme.
Et voilà, c'était Renaud Bistan. Je vous invite à découvrir tout son répertoire. Et on continue avec Tous Essentiels et Virginie et Baptiste.
Et Baptiste qui va nous faire une petite démonstration pour ceux qui auraient encore besoin de preuves. De preuves dans l'ancien logiciel, comme disait Renaud Bistan. Baptiste, par rapport au PIB.
Oui, juste pour être au clair sur cette question d'utilité sociale et donc de la reconnaissance de l'utilité sociale partout où elle est, en fait, on s'aperçoit que, évidemment, notre richesse ne repose pas essentiellement sur sur l'emploi, sur le travail rémunéré aujourd'hui. Et on peut le voir assez facilement quand on regarde les failles du PIB, une manière de mesurer la richesse aujourd'hui, la manière qui est privilégiée aujourd'hui, ça va être le calcul du produit intérieur brut. Dans ce produit intérieur brut, en fait, on va recenser l'ensemble des activités qui sont rémunérées. Donc une des critiques adressées au PIB, notamment par les décroissants dans la critique comptable de la croissance, ça va être de dire en fait, puisque le PIB ne comptabilise que le travail rémunéré, la richesse marchande et monétaire, en fait, il passe à côté d'une bonne partie de la richesse qui est créée malgré tout dans notre société et qui repose sur le travail bénévole ou le travail domestique. Et on s'aperçoit que si on devait comptabiliser le travail domestique, par exemple, le PIB ferait un bond de 35 à 75% suivant les conventions choisies. Parce qu'en fait, après tout, la question se pose, comment est-ce qu'on mesure la valeur du travail domestique? Est-ce qu'on le comptabilise au niveau du SMIC? Est-ce qu'on le comptabilise au niveau du salaire moyen? Est-ce que le comptabilise en fonction des équivalents marchands qu'on peut trouver donc sur le marché? Donc suivant la convention qu'on va choisir, le PIB va augmenter plus ou moins. Donc ça c'est pour le travail domestique. On pourrait faire exactement la même chose pour le travail bénévole. Les associations d'ailleurs le font déjà pour partie. Elles essayent de valoriser dans leur compta le temps de travail bénévole sans lequel leur activité ne pourrait tout simplement pas avoir lieu. Donc du coup ça permet de se rendre compte qu'effectivement il y a des tas de choses particulièrement importantes qui se passent hors de l'emploi.
J'ai envie de rajouter un petit détail, mais dans parmi toutes les personnes qu'on a pu rencontrer au MFRB, voilà, quand on parle du revenu de base, etc., beaucoup disent comme toi, finalement, comme tu nous partageais au début de l'émission, qu'avec un revenu de base, finalement, ça libérerait du temps d'emploi pour pouvoir faire d'autres choses et notamment du bénévolat. Donc le revenu de base serait un levier de bénévolat, paradoxalement. On y pense, voilà, c'est pas très intuitif dans notre logiciel de valeur travail, de méritocratie, de soupçons généralisés, de fainéantise, mais voilà, spontanément et individuellement, même collectivement, les gens ont envie de participer, quoi.
Alors en fait, ouais, il faut donner à tout le monde les moyens d'être bénévole, sachant que dans une société de marché comme la nôtre, donc une société dans laquelle le marché est le principal mode de régulation économique, hein, si on veut accéder à des biens et services aujourd'hui, c'est quand même beaucoup par le marché que ça passe. Et ben, si on veut avoir les moyens d'être bénévole, il faut avoir un revenu. Et l'objectif, c'est quand même de pouvoir transformer la société pour qu'on sorte de cette société de marché et qu'on ait moins besoin d'avoir un revenu pour accéder aux biens et services essentiels. C'est ça l'objectif. Si je prolonge un petit peu sur cette question d'utilité sociale pour essayer de justifier le revenu inconditionnel, mm-hmm. peut-être que je peux le porter. Il y a un économiste qui s'appelle Anthony Atkinson, un économiste britannique, qui proposait un revenu de participation. Donc lui, il n'était pas sur le revenu inconditionnel, il était sur l'idée d'un revenu de participation en disant qu'il faut verser un revenu aux personnes qui participent et puis recenser les différentes manières de participer à la société. Donc il y avait évidemment avoir un emploi, Il y avait aussi faire des études, donc être en formation, être parent et s'occuper de ses enfants, être enfant et s'occuper de ses parents, être bénévole dans une association. Et donc, il faisait une liste comme ça de tous les cas dans lesquels on pouvait participer à la société. Et en fait, quand on réfléchit un petit peu, la question qui se pose, c'est qui ne participe pas ? Qu'est-ce que ça voudrait dire ne pas participer à la société ? Donc, est-ce qu'il y a vraiment des gens à qui on pourrait dire, non, en fait, vous ne faites rien, et donc vous n'avez pas droit à un revenu inconditionnel. De mon point de vue, en fait, ce type de situation n'existe pas, ou alors relève plutôt de pathologie, et donc il ne devrait pas nous conduire à dire, on ne met pas en place un revenu inconditionnel, mais il devrait dire comment est-ce qu'on peut traiter ces pathologies. Alors, des gens qui souffrent de phobie sociale et qui refusent tout lien avec la société, par exemple, ce type de comportement ne devrait pas nous conduire à dire il faut interdire, il faut renoncer au revenu inconditionnel, mais au contraire, il faut se soucier davantage de nos liens. Et si je fais un petit pas de plus, l'exemple que je prends la plupart du temps pour justifier la contribution de chacun, chacune à un enrichissement collectif, c'est l'exemple de la belote. Moi, j'affirme que lorsque je joue à belote coinchée avec des amis, je contribue à un enrichissement collectif. Et mon raisonnement étant, si on est prêt à accepter que lorsque je joue à la belote, je contribue à l'enrichissement collectif, alors on s'apercevra assez vite que tout le monde contribue à l'enrichissement collectif. Et généralement, donc, il y a des objections. Donc, jouer à la belote, c'est juste un loisir, donc il n'y a aucune chance pour que ce soit une contribution à l'enrichissement collectif. Et donc, si je tire le fil, en fait, mon raisonnement, c'est si je décide de créer une association dont le but est de lutter contre l'isolement des personnes âgées, dans les maisons de retraite. Et dans ce cadre-là, il y a des salariés, disons, des salariés qui vont dans les maisons de retraite pour organiser des après-midi jeux. Je peux faire le pari que tout le monde conviendra que ces salariés contribuent à l'enrichissement collectif.
Oui.
Si ces salariés ne sont plus salariés mais deviennent bénévoles, je fais le pari à nouveau que la plupart des gens reconnaîtront que ces bénévoles contribuent à l'enrichissement collectif dans la mesure où ils permettent de lutter contre l'isolement des personnes âgées.
Si.
Et si, par malheur, ces bénévoles, à force de jouer régulièrement avec les mêmes personnes âgées, finissent par se lier d'amitié avec ces personnes âgées,
quelle horreur.
Je fais le pari que la plupart des gens diront tout de même que l'utilité sociale perdure. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on devient ami avec des personnes et qu'on continue à entretenir le lien que l'on a créé avec ces personnes, que l'utilité sociale disparaît. Et donc c'est pour ça que je dis que lorsque je joue à la belote avec mes amis, en fait, je contribue à l'enrichissement social, parce que ce que je fais, au-delà du simple jeu de belote, c'est que j'entretiens le lien social. Et sans ce lien, en fait, il n'y a rien. Sans le lien social, il n'y a rien. Et en fait, c'est ce travail, cette contribution que nous faisons toutes et tous, quotidiennement, faire en sorte qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Et ça, c'est juste primordial.
J'ai même envie de te proposer d'aller encore un tout petit peu plus loin. C'est le fait de jouer alors à la belote ou même presque tout seul à faire un solitaire. C'est une façon de prendre soin de moi, d'avoir du temps libéré, de mettre mon cerveau en mode automatique. Et c'est alors, outre le fait que c'est très bon pour la créativité, c'est très bon pour l'immunité, c'est très bon pour en fait c'est plein d'ocytocine, cette hormone du bonheur et qui est contagieuse, mais qui aussi prend soin de moi. Et du coup, à l'inverse, je ne vais pas être une externalité négative pour la société, parce que je serai en meilleure santé, je serai sans doute plus sociable, je sourirai plus à mes voisins, etc. Donc ce qui est bon avec les autres, c'est aussi bon pour moi. Et à l'inverse de certaines autres activités, voilà, pour le coup, qui peuvent être très très marchandes et très destructrices pour la santé en termes de stress, etc. On pourrait même aller jusqu'à l'individualité et l'utilité sur notre propre système hormonal. J'aime beaucoup cette histoire de l'ocytocine, parce que pour moi, c'est une entrée éducative versus cortisol et stress. Donc j'ai envie aussi de revendiquer que individuellement, quand je prends soin de moi, c'est aussi une façon d'être utile déjà à moi-même. Donc, sous-entendu, je ne dépendrai pas de quelqu'un d'autre pour m'apporter quelque chose. Donc je gagne en autonomie, je réduis ma dépendance aussi aux autres, et ça crée de l'interdépendance et ça vient nourrir de toute façon tout ce tissu, quoi.
Ouais, alors moi, mon raisonnement, vu que mon souci, c'est essentiellement le maintien et l'entretien de la vie sociale, je me dis que effectivement, dans nos activités solitaires également, en fait, ce que nous faisons, c'est que nous devenons de meilleurs partenaires pour les autres. si je me pose pour lire un bouquin ou regarder un film, une série, etc. Bah, à l'arrivée, je m'enrichis et je deviens un meilleur partenaire pour l'ensemble des personnes que je peux côtoyer.
Mmh. Bon, tout ça donne bien bien envie. Est-ce qu'on peut rêver à quelque chose de concret? Est-ce que c'est réaliste et réalisable? Sous quelle forme toi tu verrais ça?
Alors c'est une question compliquée. Parce que donc en fait ouais, il y a plusieurs questions. Est-ce que c'est possible techniquement, économiquement, etc. Est-ce que c'est faisable politiquement? Et puis donc, est-ce que c'est souhaitable? Alors, sur le souhaitable...
Souhaitable, on est d'accord, je pense.
Voilà, on a déjà abordé cette question. Sur le possible, techniquement, ça pose pas de vraies difficultés économiquement, tout ça. Enfin, on voit assez bien comment on peut le faire. Sur le faisable, c'est sur le faisable, à mon sens. Que,
En termes d'acceptabilité, tu veux dire
débat. Excuse-moi, je ne t'ai pas entendu.
En termes d'acceptabilité, c'est ça?
Ouais, c'est ça. En termes d'acceptabilité, c'est là qu'il y aurait le plus de freins. J'ai traduit il y a 5 ans, 6 ans maintenant, un livre de David Frein, donc un sociologue anglais, et le livre s'appelle Le refus du travail. Et dans ce livre-là, en fait, il est allé à la rencontre de personnes en Bretagne qui, pour une raison ou pour une autre, décider de refuser le travail. Donc quand je dis refuser le travail, c'est donc refuser l'emploi, et c'est remettre en cause la place de l'emploi dans leur vie. Donc ça peut être changer complètement d'emploi, quitter un poste particulièrement valorisé économiquement, socialement, pour prendre un autre emploi moins valorisé économiquement, socialement, mais libéré du temps, par exemple, ou faire un emploi qui est plus en accord avec leurs valeurs. Ça peut être aussi des gens qui ont été brisés par le boulot et qui du coup ne peuvent plus consacrer du temps à leur emploi. Ça peut être des gens qui ont testé l'emploi et qui se disent mais clairement ça s'est pas fait pour moi. Enfin, ce cadre salarié notamment ne me convient pas. Donc il est parti voir ces personnes-là, et en fait ces personnes-là montrent quel est le traitement qui leur est réservé dans une société, donc comme la société anglaise, mais c'est aussi valable pour la société française, donc une société laborieuse en fait. Hein, ce que j'appelle une société laborieuse, c'est une société basée sur la valeur travail. Donc ils montrent le coût de la résistance au travail, donc coût économique évidemment, perte de revenus, avec des fins de mois qui sont difficiles, une dépendance vis-à-vis des aides sociales par exemple, mais surtout coût social et coût symbolique, donc avec le jugement des autres, le jugement des proches, le jugement de la famille, une incompréhension, voire un rejet du côté de la famille, le jugement de la société aussi, donc on va être considéré comme des feignants, des parasites, des assistés ou des inutiles, donc avec l'idée que ne pas travailler c'est ne rien faire, le jugement de soi aussi, parce que à l'arrivée on l'a subi aussi cette valeur travail, on l'a intégré, et donc avec le sentiment fort douloureux qui est évoqué par ces personnes que David Frein rencontre, ce sentiment de ne pas être à la hauteur des attentes de la société, de ne pas être à la hauteur des attentes de leurs proches, donc la peur notamment de décevoir leur famille. Et puis, tous et toutes, ils font état de cette angoisse qu'ils ont dès qu'on leur pose la question « tu fais quoi dans la vie ?»
Mais oui.
Donc avec l'idée que dans une société laborieuse, à la question « tu fais quoi dans la vie ?», ce qu'on répond, c'est « un emploi ». Donc quand on n'a pas d'emploi,
on n'a pas d'identité.
Et de répondre à cette question. Et donc, tout ce que montre David Frein dans Le refus du travail montre à quel point il est difficile de défendre un revenu inconditionnel qui permettrait de refuser durablement l'emploi. Parce que c'est ça un des enjeux, c'est permettre de refuser durablement l'emploi pour se sortir de la contrainte de la valeur travail. Donc c'est ça en fait la difficulté sur la faisabilité politique, réussir à briser le verrou de la valeur travail.
Est-ce que tu verrais des plus petits pas possibles, des étapes?
Alors avant les étapes, en fait, moi mon raisonnement c'est de dire il faut pas prendre le revenu inconditionnel comme une proposition, j'aurais tendance à dire, il ne faut pas prendre le revenu inconditionnel comme une proposition réaliste. Mon raisonnement, c'est le jour où on sera en mesure de mettre en place un revenu inconditionnel tel que je peux le défendre, et ben en fait, on n'aura sans doute plus besoin du revenu inconditionnel. Le revenu inconditionnel, on le pense aujourd'hui essentiellement pour faire face à une crise de notre société. Donc en lien avec le capitalisme et avec notre régime de croissance. Si on accepte le revenu inconditionnel avec toutes ses implications sociales, et donc notamment avec l'idée que ça permet de se passer durablement d'emploi, alors en fait, ça veut dire que on a déjà accepté de sortir de la croissance et de son monde. Le jour où on aura une majorité de gens qui diront oui, il nous faut un revenu inconditionnel, ben en fait, on aura déjà transformé la société vraisemblablement. En fait, on aura déjà validé le fait que aujourd'hui, on va pas dans le bon sens, que la croissance c'est clairement le non-sens, et donc continuer à chercher à produire plus, travailler plus, consommer plus, ça n'a pas de sens. Donc mon raisonnement c'est ça. Le jour où on sera en mesure de mettre en place un revenu inconditionnel, vraisemblablement, nous n'aurons plus besoin de mettre en place un revenu inconditionnel. Ce qui veut dire qu'on pourra aussi trouver d'autres modalités pour garantir l'accès de toutes et tous aux biens et services essentiels. Mais on aura déjà fait un grand pas pour sortir de la croissance et de son monde. Alors après, les petits pas pour arriver... cette prise de conscience collective, alors on peut en imaginer plusieurs, avec les copains copines décroissantes, parmi nos propositions, il y a l'idée par exemple de mettre en place une retraite unique, vu que la question des retraites revient régulièrement. Une des questions qu'on se pose, nous, c'est pourquoi est-ce qu'on continue à justifier au moment de la retraite les inégalités déjà injustes que l'on observe pendant la vie active. Pourquoi ne pas mettre en place un système de retraite unique, forfaitaire, sur le modèle du revenu inconditionnel? Et donc ça permettrait de remettre en cause une partie de la valeur travail. Ça peut être un premier pas. Un autre pas envisageable, c'est quelque chose que je défends avec d'autres copains qu'on a défendu dans un livre qui s'appelle « Nos temps plein subi ». Ce qu'on va défendre, c'est un droit inconditionnel au temps partiel choisi. Donc la reconnaissance pour tous les salariés d'un droit inconditionnel au temps partiel choisi, donc la possibilité de demander à passer à temps partiel et de l'obtenir sur simple demande, sans avoir à justifier. Aujourd'hui, pour accéder au temps partiel, il faut avoir une bonne raison, pouvoir justifier auprès de son employeur une bonne raison, et dans le droit, il y a essentiellement deux bonnes raisons. Soit être en création d'activité, soit avoir des enfants en bas d'âge. Et donc du coup, nous ce qu'on dit, c'est on a droit au temps partiel, soit pour s'en remettre une couche, donc travailler plus à côté, soit pour changer des couches. Et en fait, il y a plein d'autres raisons qui devraient pouvoir justifier un accès au temps partiel, juste vouloir moins bosser, vouloir faire d'autres activités qui nous botent plus, etc. Enfin, il y a plein d'autres raisons. Et aujourd'hui, elles ne donnent pas accès de droit au temps partiel. Et donc du coup, on a le droit de demander, mais l'employeur a le droit de refuser. Donc puisque l'employeur a le droit de refuser, la plupart du temps, il refuse, donc on ne demande pas. C'est ça qui se passe. Et donc c'est ça qui conduit à ce qu'on appelle le temps plein subi. Donc à tous ces gens qui disent, nous souhaiterions consacrer moins de temps à notre emploi dans nos vies, mais puisque le temps partiel n'est pas une bonne partie, l'écrasante majorité des salariés se retrouvent à temps plein. Et pour partie subie. Donc reconnaître un droit inconditionnel au temps partiel choisi, ça permettrait sans doute de revaloriser le temps libéré, donc de dire effectivement il se passe des choses intéressantes dans le temps libéré pour les individus, mais aussi plus globalement pour la société. Et ce droit inconditionnel au temps partiel choisi, on l'associerait à une surrémunération sur le modèle de la fonction publique. Aujourd'hui dans la fonction publique, quand on est à 80 ou 90%, on n'est pas payé 80 ou 90%, on a un traitement qui s'élève à 86-87% quand on est à 80% et à 93-94% quand on est à 90%. Donc en fait, ça permet de rendre compte du fait que quand on est à temps partiel à l'arrivée, on contribue un peu plus, enfin la productivité est plus importante que quand on est à temps plein. Et puis ça permettrait de valoriser ce qui se joue également hors de l'emploi. Et ça permettrait, alors là, dans notre optique, de rendre accessible les temps partiels à un plus grand nombre. Aujourd'hui, la différence entre temps partiel subi et temps partiel choisi, c'est essentiellement une histoire de rémunération. Plus on est payé, plus on est à temps partiel choisi. Moins on est payé, plus on est à temps partiel subi.
Et au passage de se retirer cette espèce de justification, on ne peut prendre un temps partiel que si on compense par un investissement, que ce soit l'investissement dans la génération future ou l'investissement dans de nouveaux savoirs qu'on va pouvoir utiliser dans un nouvel emploi, etc., etc. C'est toujours quelque chose de lié à la rentabilité finalement.
Oui, tout à fait. Ouais. Donc là, ouais, c'est tout l'intérêt donc, de cette surrémunération donc généralisée à l'ensemble des quotités, à l'ensemble des salariés, ce serait de dire, en fait, hors de l'emploi, il se passe des choses, il faut nous donner les moyens de réaliser ces choses qui contribuent à l'enrichissement collectif. Donc ce serait un premier pas vers un revenu inconditionnel.
Écoute, je te propose une petite pause musicale, histoire de quitter notre train-train. Et train-train, c'est justement la chanson d'Arnold que je vais passer à l'instant, qui sort un nouvel album qui va s'appeler Rêve de comptoir, qui devrait sortir dans quelques semaines, hein, a priori. À tout de suite.
Il est 5h30. J'assomme mon réveil, je bascule de mon lit. J'abandonne mon sommeil, je descends dans la cuisine. Me beurrer une tartine, j'avale mon café chaud. Et je pars au boulot. C'est le train-train quotidien, le train-train quotidien de ma vie de vaurien qui part à son turbin. Le train-train quotidien, le train-train quotidien de ma vie de clan. Les yeux en flanc courgette, la tête dans les baskets, j'entends le bruit des machines, dès l'entrée de l'usine, en voyant le contremaître vissé à sa fenêtre, j'atomise la pointeuse, avec une rachifre, je pointe à 8h12, j'enfile ma belle blouse, et au poste 36, je visse et je dévisse, le train-train quotidien, le train-train quotidien, de ma vie de vaurien. Son destin, le train-train quotidien, le train-train quotidien. Mon patron fait ce qu'il peut, j'ai pas trop ce qui m'agouille, mais ce qu'il fait de mieux, c'est de chercher l'embrouille. Je suis pas dans la cadence, il m'envoie les pouces blanches, me retrousser les manches, pour entrer dans la danse du train-train quotidien, du train-train quotidien, de ma vie de vaurien. Le train-train quotidien, le train-train quotidien de ma vie de clampin. C'est le train-train quotidien, le train-train quotidien de ma vie de vaurien qui poissonne son destin. Le train-train quotidien, le train-train quotidien. Changer d'horizon, pas de place pour le rêve. Ici c'est marche ou crève, assez des mots acides qui hantent ma mémoire, me font broyer du noir. Et tomber dans le vide du train-train quotidien, le train-train quotidien de ma vie de vaurien qui part en sens urbain. Le train-train quotidien, le train-train quotidien de ma vie de clampin. C'est le train-train quotidien, le train-train quotidien de ma vie de vaurien qui poissonne son destin. Le train-train quotidien, le train-train quotidien.
Voilà, c'était Arnold de Horizon de Radio Campus 106,6 que vous pouvez également écouter en DAB+, sur Internet, voire même écouter les podcasts de cette émission et de toutes les autres depuis 2 mois. Et on continue avec Tous Essentiels et Virginie.
Et Baptiste. Bon, Baptiste, j'aimerais qu'on revienne sur le nom que tu as choisi pour ta version, entre guillemets, Revenu de citoyenneté. Pourquoi ?
Alors le nom complet, mais ça fait un nom rallonge, hein, ce serait revenu inconditionnel suffisant de citoyenneté.
D'accord. Clair. Pour être sûr.
C'est sur le côté inconditionnel, doublement inconditionnel, sur le côté suffisant parce que c'est ce qui permet de faire les distinctions la plupart du temps entre les propositions de droite et les propositions de gauche.
Et de se passer dans quoi
Ouais, suffisant faut échapper à la pauvreté, à l'exclusion et à l'exploitation. Et puis, donc deux citoyennetés. Alors ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il y a quelques années, il y a Dominique de Villepin qui avait proposé, juste avant une campagne présidentielle, qui avait avancé comme proposition l'instauration d'un revenu citoyen. Et donc son idée, c'était, il faut inverser un revenu avec pour condition la citoyenneté, la nationalité. Alors, il fallait être de nationalité française pour pouvoir bénéficier de ce revenu. Et du coup, moi, je parlais déjà de revenu citoyenneté, donc ça m'a interpellé que Dominique de Villepin propose un revenu citoyen. Et donc, à l'évidence, il y avait une différence tout de même entre les
versions. Oui, j'imagine. Entre les
propositions, et notamment, lui faisait de la nationalité une condition du versement du revenu citoyen, alors que moi, je fais du versement du revenu de citoyenneté la condition de la participation à la société. En fait, du coup, je ne dis pas il faut verser un revenu inconditionnel aux seuls nationaux, mais si on veut que les gens puissent participer activement à la société, il n'y a pas 36 solutions, il faut leur donner les moyens de participer à cette société. Donc le revenu inconditionnel que je défends est une condition de l'accès à la citoyenneté. Il faut verser ce revenu pour que tout le monde puisse participer activement à la société. Et donc du coup, c'est une tension qui a, à mon sens, dans les différentes propositions de revenu inconditionnel. Quand on dit revenu inconditionnel, donc c'est sans condition et sans contrepartie. On dit généralement sans condition d'âge, sans condition de revenu, sans condition de situation familiale, sans condition d'emploi ou d'absence d'emploi, etc. Mais se pose la question de la condition de nationalité ou pas. Moi, j'ai tendance à dire il faut surtout pas mettre en place de condition de nationalité, il faut se contenter d'une condition de résidence, au même titre que pour l'impôt sur le revenu, par exemple, au-delà de 6 mois de résidence sur le territoire, on est assujetti à l'impôt sur le revenu. De la même manière, j'aurais tendance à dire, au-delà de 6 mois, si on reprend le même critère, au-delà de 6 mois sur le territoire, on a droit au revenu inconditionnel pour nous donner les moyens de continuer à participer dans de bonnes conditions à l'enrichissement collectif, et donc en gros pour nous donner les moyens d'accéder à une authentique citoyenneté.
Ça, c'est une idée qui est vieille comme notre révolution française, hein, parce que déjà Thomas Paine disait sans revenu, point de citoyen. Et effectivement, il y a non seulement le très concret de bah oui, sans revenu, on peut pas vivre, on peut pas s'intégrer, etc. Et même en termes symboliques, le fait de ne pas avoir de revenu, comme tu l'as bien dit, même psychologiquement, ça touche la confiance en soi, etc. Le lien social. Et donc, on ne peut pas s'investir, on ne peut pas se sentir appartenir si on n'a pas un minimum vital pour être déjà soi-même et pour pouvoir être en lien de façon à peu près humaine, quoi, juste comme ça. Du coup, ça fait aussi le lien avec la question de posséder. Alors, posséder à quel point ? Posséder un revenu, posséder un logement, ouais. Posséder des moyens de production ?
Alors, je fais juste une petite parenthèse avant. Je m'aperçois que j'ai oublié un point aussi à la question comment est-ce qu'on le réalise, etc. Donc, je disais, en fait, paradoxalement, le jour où on sera en mesure de mettre en place un revenu inconditionnel, on n'aura sans doute plus besoin de mettre en place un revenu inconditionnel, on aura déjà transformé la société. Et en fait, on pourrait interpréter ça en disant finalement que ça ne sert à rien de défendre un revenu inconditionnel, parce que aujourd'hui ça peut pas marcher, etc. Et or, j'aurais tendance à dire que c'est exactement l'inverse. Une des forces, une des principales forces que je vois à la proposition de revenu inconditionnel, enfin aux propositions de revenu inconditionnel, je veux dire de gauche radicale, et je jouerai des croissants. Leur principale force, c'est que, en fait, avant même l'éventuelle mise en œuvre d'un revenu inconditionnel, elle contribue à transformer la société. Le principal intérêt que je vois au revenu inconditionnel, donc c'est ça, c'est que systématiquement, quand on aborde la question du revenu inconditionnel, on soulève plein de questions et toutes ces questions, toutes les objections qui sont opposées au revenu inconditionnel, on peut les retourner contre la société actuelle. Je dis le revenu inconditionnel, il est défendu aujourd'hui pour faire face à une crise de notre société. Et en fait, ça conduit à passer la société au révélateur du revenu inconditionnel. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre société ? Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas dans la société et que tout ça est révélé par toutes les objections qu'on oppose au revenu inconditionnel. Donc la question de si on met en place un revenu inconditionnel, les gens vont plus travailler. Maintenant, en fait, dans quel type de boulot on est en train de pointer là quand on dit les gens vont plus travailler ? Pour quel type de boulot, il faut absolument avoir une contrainte financière pour accepter de les faire. Est-ce que c'est normal de s'appuyer sur la contrainte financière pour que des gens fassent des boulots que, à l'évidence, ils n'ont pas envie de faire, en tout cas pas aussi longtemps, pas autant de temps par semaine, etc. S'il met en place un revenu inconditionnel, il va y avoir un appel d'air et plein d'immigration supplémentaire et c'est une catastrophe. En fait, dans quel type de monde, l'immigration, ça pose un problème. Dans quel type de monde, il y a des flux migratoires qui peuvent être expliqués par des inégalités, de fortes inégalités économiques. Enfin, ce type de questions qui sont soulevées systématiquement quand on parle de revenu inconditionnel. Bon, en fait, il faut surtout pas attendre l'instauration d'un revenu inconditionnel pour essayer d'y répondre. Que ce soit la question des tâches pénibles, que ce soit la question des inégalités hommes-femmes, etc. En fait, le revenu inconditionnel permet de soulever toutes ces questions. Et donc, n'attendons pas la mise en place de ce revenu inconditionnel pour pouvoir répondre à ces questions. Et en fait, progressivement, nous pourrons nous passer de la nécessité du revenu inconditionnel. Donc, c'est ça le principal intérêt que je vois au revenu inconditionnel. Et c'est pour ça que je continue à défendre un revenu inconditionnel.
J'ai envie, si tu veux bien, d'aller encore en deçà, parce que là, t'es au niveau sociétal. Moi, je me rends compte qu'avec le petit groupe local de Lille, quand on va, là en septembre, quand on a interviewé à peu près, interpellé à peu près une 500 personnes lors de la grande braderie de Lille, il y a aussi... c'est clair que ça libère l'imaginaire individuellement et même le corps. Quand on interpelle les gens en disant, bon, imaginez, qu'est-ce que vous feriez avec votre revenu de base, il y a d'abord le corps qui parle, il y a des soulagements, il y a des détentes, il y a des gros soupirs, il y a des sourires, et après l'intellect qui se met à rêver, ah, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, et il y a de la libération en fait de toutes ces croyances, mais d'abord à l'intérieur de soi-même. Et après, effectivement, quand on pose la deuxième question, bah, si on l'installait plus généralement, c'est d'abord les effets positifs qui arrivent. Et après, les croyances, voilà, évidemment, arrivent et on arrive aux objections dont tu parles, mais il y a vraiment cet effet de libération au sens incarné du terme, c'est assez fort.
Ouais. Enfin, vraiment, c'est pas ça fait un moment, du coup, que je fais des débats autour du revenu inconditionnel. J'ai pas vu d'autres propositions qui ouvraient à ce point l'horizon. Enfin, effectivement, on conduit à se dire, c'est présenté la plupart du temps comme une utopie, et une utopie souhaitable, mais malheureusement pas possible. C'est ça le raisonnement, et effectivement, il y a plein d'objections qui viennent. Et en fait, c'est pas possible dans notre société. Et pourquoi c'est pas possible dans notre société? Parce que notre société, elle a plein de problèmes, plein de défauts, et c'est contre ça qu'il faut lutter. Enfin, c'est vraiment, à mon sens, c'est la grande force du revenu inconditionnel.
C'est un révélateur.
Et parmi les objections, il y a aussi la question de l'inflation, par exemple. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer mettre en place un revenu inconditionnel qui permettrait d'accéder aux biens et services essentiels, alors que sans doute que les biens et services essentiels risquent de voir leur prix augmenter, notamment au logement. Mettre en place un revenu inconditionnel, ce serait une invitation donnée aux propriétaires d'augmenter considérablement les loyers, puisque tout le monde aurait un revenu le revenu des plus démunis augmenterait, notamment.
Du coup, là on touche la question des mesures qui seraient à mettre avec un revenu de base, revenu inconditionnel, etc. Parce que c'est un projet de société. Finalement, le revenu de base, ce n'est qu'un outil parmi d'autres.
C'est ça. Avec ou même en attendant aussi le revenu inconditionnel. Et donc typiquement, ça suppose, de mon point de vue aussi, une critique assez radicale de la propriété. Donc là, je rejoins totalement, notamment les positions du réseau salarié, hein, sur la critique de la propriété privée, individuelle et lucrative. Donc se dire, si on veut garantir l'accès aux biens et services essentiels, il faut se poser la question de la généralisation de la propriété d'usage. À titre personnel, je bosse avec des copains copines aussi sur la création d'une coopérative immobilière qui vise à faciliter l'accès, à créer un pot commun de logement qui à terme serait gratuit pour sortir le logement du marché dans la logique des biens communs. Donc c'est une autre piste à travailler pour garantir l'accès aux biens et services essentiels en parallèle du revenu inconditionnel. C'est une question qui doit également être travaillée à côté de la simple question du revenu.
Donc là, d'autant qu'on parle de la sécurité physique, de la survie, là, on est sur des besoins essentiels, au-delà même de la sécurité affective ou du lien avec les personnes. Est-ce que, parce qu'on va devoir clôturer, donc, cette ouverture.
Ça fait déjà une heure, mais oui.
Cette ouverture vers la propriété, je pense que tout le monde pourra peut-être l'approfondir. Alors je glisse que tu as participé à un débat avec Bernard Friot, du coup l'auteur ou le lanceur du salaire à vie. Je vous envoie vers la revue Ballast et sur YouTube, vous pouvez la retrouver. Est-ce que tu voulais proposer à nos auditeurs que tu as alléchés, de pouvoir approfondir vers autre chose, vers où tu pourrais les envoyer?
J'ai le temps d'ajouter une dernière parenthèse.
Vas-y.
Avant de proposer. J'ai le temps ou pas?
Oui, vas-y.
Oui. Juste sur un dernier point sur la posture avec laquelle je défends le revenu inconditionnel aujourd'hui. Bon, je disais, je défends le revenu inconditionnel notamment parce que j'adore les débats que ça permet d'amener. Mais je dirais aussi, je défends surtout pas un revenu inconditionnel à tout prix. Donc je défends un revenu inconditionnel de gauche, enfin anticapitaliste, antiproductiviste, décroissant. Et donc je voudrais pas d'un revenu inconditionnel au rabais. Donc je ne souscris pas aux propositions de revenus inconditionnels qui sont insuffisantes ou qui remettent de la conditionnalité d'une manière ou d'une autre. Pas d'un revenu inconditionnel à tout prix. Je défends pas non plus un revenu inconditionnel ou rien d'autre. Donc je suis ouvert à toute proposition qui permettrait de réaliser les mêmes objectifs que ceux que je peux défendre dans cette perspective décroissante. Je veux pas d'un revenu inconditionnel et c'est tout. Donc ce que j'essayais d'indiquer avec la question de la propriété privée, le revenu inconditionnel, comme tu le disais, doit s'accompagner de plein d'autres propositions qui s'inscrivent dans un projet politique de transformation sociale radicale. Et au niveau des pistes, enfin des prolongements pour aller plus loin sur toutes ces questions-là, j'aurais deux références à donner, enfin deux sites à conseiller. D'une part, le site de l'Observatoire des inégalités, qui est un site génial pour trouver plein de ressources sur les questions d'inégalité, inégalité de niveau de vie, inégalité salariale, inégalité de patrimoine dans notre société. Et en fait, il y a quand même une grande méconnaissance de notre société sur ces questions-là, et donc leur travail permet vraiment d'éclairer le débat, c'est vraiment important. Et puis j'ajouterai également une autre piste avec les copains copines décroissants de la maison commune de la décroissance, donc la MCD, qui publie régulièrement des articles qui permettent de mettre en lumière justement le régime de croissance dans lequel nous sommes et qui évoque des pistes pour en sortir, qui est animé notamment par Michel Lepesant, avec qui j'ai coécrit le livre Inconditionnel, donc Anthologie du revenu universel aux éditions du Détour en 2018, et donc qui revient également sur les questions de revenu inconditionnel.
De quoi alimenter et notre lucidité, et notre espoir, et notre pouvoir d'agir. Merci beaucoup.
Eh bien, merci beaucoup. On se quitte avec les premières notes de Tic Tac de Merlot, vu que son album sort dans quelques jours. Ça sort le 9 février, ça s'appelle La Marseillaise, aux éditions Baco Musique. Rendez-vous le mois prochain, Virginie.
Oui, merci beaucoup,
merci
Baptiste.
Merci beaucoup, Baptiste. Au revoir.
Un truc sérieux. À force de courir sans cesse, on est tous malheureux. Les aiguilles qui tournent et qui pressent les gens chaque jour. Oui, c'est bon pour l'argent, c'est pas bon pour la vie, c'est pas bon pour l'amour. Mais toujours tic tac, tic tac, ça ne s'arrête jamais. Tic tac, tic tac, oh oh oh. Tic tac, tic tac. Les jours c'est pareil, tic tac, tic tac. Et tout ce temps à courir au fond, on ne sait même plus si en vrai ce ne serait pas un peu que du temps perdu. Papa, papa, le temps faut travailler. Papa, papa, le temps de se poser. Il faut faire.